Et nous voici de retour en direct, toujours depuis le Palais des Sports de Grenoble, où se déroule le Forum des associations de la ville. On vous l'annonce à chaque reprise de ces petits décrochages en direct depuis ce matin, 10h. Il y a effectivement un grand événement au Parc Paul Mistral. Ça s'appelle 1, 2, 3, rentrée. Il y a donc le Forum des associations au Palais des Sports jusqu'à 18h. Également jusqu'à 18h du côté de la Halle Clémenceau, à deux pas du Palais des Sports, c'est le Forum des Sports qui se déroule. Et puis, quand on traverse le parc, on arrive à l'Hôtel de Ville où se tient le Forum du budget participatif. Donc, beaucoup de projets proposés par des citoyens grenoblois et même en dehors des habitants vous sont présentés là-bas. Donc, vous pouvez échanger avec eux et ensuite voter pour les projets qui vous paraissent les plus intéressants. On avait un plateau tout à l'heure où on nous a largement parlé de cette question-là. Et vous avez compris, si vous nous avez suivis, qu'il n'y a pas que les Grenoblois qui sont invités à voter. Si vous habitez en dehors de Grenoble, vous pouvez aussi participer à ce choix de sujet. Voilà, donc tout ça, c'est autour du Parc Paul Mistral. Mais nous sommes installés ici dans le hall du Palais des Sports avec deux nouveaux invités, quatre invités autour des micros, où on va parler du bénévolat, la question du bénévolat et de la mobilisation des bénévoles. Une question qui est récurrente pour le monde associatif, à l'heure où certaines associations ont du mal à renouveler un peu leurs effectifs et notamment au niveau des responsables de la direction. Eh bien, on va aborder cette question-là tout de suite avec Marie-Noëlle Pinel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Donc, Marie-Noëlle, vous représentez l'association France Bénévolat.
Je suis présidente de l'association France Bénévolat Grenoble-Isère.
Voilà. À vos côtés, Manon Paillard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous représentez aujourd'hui la Corderie.
C'est ça. Moi, j'étais en service civique l'année dernière à la Corderie.
Et on va y revenir, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'on entend par ce terme d'accorderie. Il y a le SAMU social représenté par Éric Recourt, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis l'association d'accueil des demandeurs d'asile, Jean-Michel Reynaud.
Bonjour.
Bienvenue également. Alors, on va refaire un tour de table en commençant par Marie-Noëlle Pinel. France Bénévolat, quelques mots pour resituer un petit peu cette structure, ce que vous faites, depuis combien de temps et puis pour quels objectifs ?
Alors, France Bénévolat, c'est une association qui existe au niveau national et qui a à peu près un centre dans chaque région de France. Chaque centre est une association à part entière, c'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises à Paris, mais sur le terrain. C'est important. Et la vocation de France Bénévolat, c'est le développement de l'engagement bénévole pour une société active, pour une citoyenneté active. Ce qui veut dire que chacun peut participer à la société par son engagement bénévole, en sachant que le bénévolat, c'est un acte libre et gratuit.
Alors ça veut dire quoi? Que les gens qui viennent vous voir, vous leur dites ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les associations en fonction de leur sensibilité, leur
c'est
profil.
Plutôt eux qui nous disent ce qu'ils ont envie de faire, et ça c'est ce qui est très important.
Et vous les orientez vers les
Et on les oriente vers des associations. Alors nous, je vais dire hors Covid, on travaille avec plus d'une centaine d'associations qui sont adhérentes, plus d'autres associations qui ne sont pas adhérentes mais qui sont importantes pour les personnes qui viennent nous voir. Et nous recherchons toujours l'association qui peut correspondre et la mission surtout qui peut correspondre à la personne qui vient nous voir. Il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un en disant allez les voir, de toute façon il y a toujours du travail. Les bénévoles, ce sont des gens qui ont une idée, qui ont envie de faire quelque chose et quelque chose qui débouche. Donc on essaye de trouver une mission qui leur correspond, qui correspond à leur envie. On explique aussi ce que c'est que le bénévolat, parce que le bénévolat, je vous ai dit, c'est un acte libre et gratuit. Ça veut dire qu'on choisit le temps que l'on consacre au bénévolat. Ça veut dire qu'on choisit l'action qu'on va mener et la mission qu'on va mener. Donc, c'est important de pouvoir expliquer tout ça.
Quel est un peu le, on va dire, le profil entre guillemets majoritaire des gens qui viennent vous voir? Est-ce que c'est davantage des seniors qui ont du temps libre? Est-ce qu'il y a un peu tous les âges? Les jeunes, souvent les associations nous disent on a du mal à avoir des jeunes bénévoles. Donc les personnes qui viennent vous voir, c'est quelles
Alors j'ai envie de vous dire c'est tout le monde, parce que...
Donc vous avez aussi des jeunes qui viennent.
On a des jeunes, on a des conventions, des engagements avec l'université aussi. Donc on est présent sur l'université. Après la tranche des 35-50 ans, ils sont quand même très occupés par leur famille. Quant aux seniors, ce ne sont pas les moins occupés. Donc ce n'est pas automatiquement les personnes qui font le plus de bénévolat. Ils en ont déjà fait, ils en ont fait avant, mais ce ne sont pas les seniors qui font 50% du bénévolat, non.
D'accord. Et alors, on va y revenir un peu plus amplement sur la question de cette mobilisation bénévole. Je disais que beaucoup d'associations disent depuis plusieurs années qu'elles ont du mal à avoir de nouveaux adhérents. Est-ce que c'est une tendance que vous confirmez? Alors, on ne parle pas encore de la période confinement, déconfinement, mais voilà, de période normale. Est-ce
si
que le bénévolat, il y a de moins en moins d'engagement?
Non.
Non.
Alors, toutes les statistiques nationales faites par non seulement France Bénévolat, mais par d'autres associations, il n'y a pas moins de bénévolat et il n'y a pas une chute des bénévoles. Il y a au moins autant de bénévoles et même peut-être plus. Simplement, ce ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des seniors. Les seniors, ils ont leurs parents, ils ont leurs petits-enfants. Donc, ça fait beaucoup. Donc, les seniors ne s'engagent plus de la même façon. Primitivement, quelqu'un pouvait s'engager sur 3 jours par semaine, de 8h du matin à 5h de l'après-midi. Actuellement, le bénévolat est beaucoup plus ponctuel. C'est-à-dire que les personnes vous disent « moi, je peux de telle heure à telle heure et tel jour ». Bon. Donc, si vous voulez, ça change un petit peu le visage du bénévolat. Mais si moi j'avais le standard de l'association pendant le confinement, et je peux vous dire qu'il y avait un élan de solidarité absolument extraordinaire, et que chacun aurait aimé participer, faire quelque chose pour son voisin, pour des gens qui en avaient besoin, pour participer aux distributions alimentaires, etc. Alors, c'est le goût du jour, c'est vrai. Mais le bénévolat n'est pas en panne.
D'accord.
Il existe.
Donc on va y revenir et puis nos autres invités vont pouvoir aussi apporter leur témoignage par rapport à cette tendance. Alors Manon Paillard, la Corderie, oui. Qu'est-ce que c'est?
Alors la Corderie, c'est une association qui propose à ses adhérents un système d'échange de services en utilisant une monnaie qui est le temps. Et donc non pas l'argent en euros, mais le temps qu'on va dépenser pour aider quelqu'un du réseau de l'association. Donc si par exemple je viens chez vous pour vous faire du repassage, que ça m'a pris 2 heures, vous allez me donner 2 heures que je vais stocker sur un compte temps virtuel. Et avec ces 2 heures, je vais pouvoir aller demander à quelqu'un d'autre du réseau qui est un peu doué en bricolage de venir faire des travaux chez moi. Il va gagner le temps qu'il a dépensé et ainsi de suite. Donc chacun, selon ses compétences et aussi selon ses lacunes, va pouvoir se compléter. Et le principe, la grande idée derrière, c'est de recréer du lien social et de permettre aux gens de se rencontrer et de ne pas rester seuls avec leurs problèmes. Et aussi de pouvoir mélanger des populations qui ne se seraient jamais rencontrées sans cette opportunité de base qui est le besoin. J'ai besoin d'aide dans tel domaine, je reconnais que j'ai des lacunes, mais dans tel autre domaine, j'ai des compétences, donc je peux donner de mon temps pour dépanner quelqu'un.
Donc ça veut dire qu'au niveau des adhérents, on est à la fois adhérent, actif, on apporte quelque chose, mais on est également bénéficiaire.
C'est ça. Du coup, nous, à la Corderie, on ne parle pas en tant que bénévole. On n'utilise pas ce terme. On dit qu'on est accordeur, donc membre de la Corderie, puisque tout le temps qu'on va donner pour aider quelqu'un, en fait, il nous est rendu en un sens. On est indemnisé et on est, on est gagnant, donnant et gagnant à la fois.
Au jour d'aujourd'hui, combien d'accordeurs?
Je dirais 700 à peu près.
Qui viennent sur l'agglomération. Toute l'agglomération grenobloise.
Du coup, l'accorderie, c'est une fédération qui a 37 accorderies en France. Il y en a pas mal en Rhône-Alpes, je ne saurais plus vous dire le nombre exact. Les échanges sont aussi possibles entre accorderies, mais la plupart du temps, donc, on reste ancré localement. Et voilà, ouais, et du coup, l'accorderie de Grenoble, c'est à peu près 700 adhérents. Et donc, nous, notre problème, néanmoins, comme toutes les associations, c'est d'arriver à ce que les gens aillent plus loin que seulement s'inscrire parce qu'ils adhèrent au principe. Mais qu'ensuite, vraiment, ils fassent des échanges, ils viennent à des événements, ils rencontrent des personnes et que...
C'est uniquement des échanges de services ou de biens également ?
Alors, uniquement de services, mais il y a aussi les échanges individuels entre deux personnes, mais des échanges plus collectifs. Par exemple, quelqu'un qui pourrait proposer un cours de musique, un cours de yoga à plusieurs personnes, d'aller faire des balades en montagne, de sortir ensemble, de discuter, ça peut être tout et n'importe quoi, faire des ateliers cuisine. Et il y a aussi la dimension associative. Donc l'association a aussi besoin donc, de temps bénévole pour fonctionner. Et donc des adhérents qui s'engagent pour aider l'association et en échange du temps qu'ils ont dépensé dans cette démarche vont recevoir aussi, voir leur compte temps crédité, du temps dépensé.
Comment on fait pour devenir accordeur ? Il faut aller sur un site ?
Il faut venir au local de l'accorderie.
Qui se trouve ?
Qui se trouve rue Général Ferrier, au 62 rue Général Ferrier, dans le quartier Capuche, en face d'Épisol, que vous connaissez sans doute peut-être.
On les a déjà croisés, oui.
J'imagine. Du coup, l'inscription se fait en physique. Il y a quelques documents à remplir et il y a aussi une inscription sur un espace membre sur Internet depuis lequel vous avez accès donc sur votre ordinateur personnel aux offres et aux demandes de services du réseau des adhérents et où vous pouvez directement avoir le contact des personnes et les appeler en autonomie. Le but aussi, c'est que les gens soient autonomes et n'aient pas forcément besoin de passer par l'équipe de l'association. Néanmoins, il y a une équipe qui est composée d'une salariée à plein temps et de deux services civiques qui sont aussi là pour faire le lien entre les gens, pour accompagner, pour tout ce qui est le côté aussi administratif de l'association.
Très bien. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, Éric Rocourt, le SAMU social, on a déjà pu voir de temps en temps des petits reportages télévisés sur le SAMU social, sur le travail important qui est fait. Donc ce sont des équipes, des bénévoles qui vont sur le terrain rencontrer des SDF. C'est essentiellement SDF ou il y a d'autres populations, des gens isolés
Alors c'est une association qui fait de la maraude. On travaille en lien avec le 115, mais également on a des appels en direct, appels de possibilités de la police, des pompiers, du CHU. Donc on organise des maraudes le soir à partir de moyenne 20h et on essaie de faire des maraudes actuellement avec les conditions Covid qui durent pas plus de 3h, 3h30 maximum. C'est vrai que le Covid a changé quand même beaucoup de choses. Et on est principalement oui, sur un public qui est SDF ou en tout cas logé dans des mauvaises conditions, squat, etc. Et on a également un peu un public qui a des problèmes psy, des gens seuls, des gens extrêmement seuls. Donc on fait de l'orientation, on fait également des fois des conseils selon les cas. Et on applique un suivi de par la maraude. Voilà, vu qu'on n'est que des bénévoles, on ne peut pas faire un suivi comme le feraient des travailleurs sociaux. Mais à côté de ça, c'est dans la répétition en fait qu'on voit les gens, tout simplement.
Devenir bénévole au SAMU social, est-ce que c'est possible pour n'importe qui ou faut quand même avoir quelques compétences, je sais pas, un minimum de psychologie pour pouvoir aborder les personnes en difficulté Je suis pas sûr que tout le monde puisse le faire.
Alors c'est pas à la portée de tout le monde, oui ça c'est sûr. C'est pour ça que quand on reçoit une demande de bénévolat, on convoque à une réunion d'accueil. Et au cours de la réunion d'accueil, donc on présente l'association. Mais on a surtout un discours réaliste sur ce que les gens vont voir en maraude. Parce que autant il y a des soirs où on peut avoir une maraude où tout va bien se passer. On rencontre des gens qui au final sont sympas, avec qui on discute bien. On a l'impression d'avoir passé une bonne soirée. Et puis des fois, ça peut être des soirées un peu catastrophiques, entre guillemets, où vraiment là, on peut voir des choses dures. Donc ces choses dures, il faut être capable de les encaisser. Et il faut être capable de faire avec après. Ce qui n'est pas toujours évident. Et on a des personnes qui sont venues une ou deux fois en maraude. et qui ont arrêté parce qu'elles n'arrivaient pas à encaisser, tout simplement. Et déjà, à la réunion d'accueil, on essaye quand même de dresser un portrait vraiment réaliste. Donc, ça, bah, les gens les plus sensibles, en fait, comprennent qu'ils sont pas, ils pourront pas, quoi. Qu'ils sont pas adaptés à la chose.
Il y a des formations, une formation qui est donnée avant de partir en maraude ?
Alors, il y a, dans chaque équipe, il y a un tuteur. Le tuteur, c'est une personne qui a plus d'expérience, qui est depuis quelques temps dans l'association, donc qui connaît le public, qui connaît les façons de faire aussi de l'association, hein, comment on gère les choses avec le 115, comment on gère les choses aussi avec les usagers. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas réagir n'importe comment avec n'importe qui, en fait. Et il y a certaines personnes avec qui il faut quand même avoir une certaine ligne de conduite. Et donc les équipes sont encadrées. Et après, c'est en faisant déjà une dizaine de maraudes. Déjà à ce moment-là, on est quand même beaucoup plus formés. L'année dernière, on proposait une formation à l'écoute. On a également fait une formation à l'écoute. Et... Oui, une formation à l'écoute. On avait fait un café des pratiques. Donc le café des pratiques, en fait, ça permettait aux bénévoles, avec un psy, qui est un psychologue qui était là, de décharger en fait ce qu'ils avaient vécu en maraude. Et c'était vraiment un petit groupe, maximum une dizaine de bénévoles. Et on se rendait compte qu'en fait, ben, souvent, les autres bénévoles, pour ceux qui étaient avec nous sur la maraude, ont vécu la chose de la même façon, ont interprété les choses de la même façon, et ça a eu au final le même effet. Et rien que de pouvoir en parler, en fait, ça défait les nœuds. Et on arrive à passer à autre chose et à comprendre les choses aussi.
Jean-Michel Reynaud, on passe donc au dernier invité, à la dernière structure, accueil des demandeurs d'asile. Là, on est aussi sur un public un peu fragile. Donc quelques mots pour nous resituer votre structure. Ouais, depuis quand vous existez ?
Depuis 1986, l'ADA a été créée par quatre associations, Amnesty International, l'ODTI, le Secours catholique et le Diaconat protestant. Et depuis 1986, nous avons des missions pour la veille et l'appui juridique auprès des demandeurs d'asile et de la deuxième mission qui est plutôt... au niveau de l'aide au récit pour les demandeurs d'asile, qui est quelque chose d'extrêmement important pour eux, de pouvoir retracer leur parcours, leur récit, et puis l'écoute, l'accueil et l'accompagnement dans différents domaines. Nous avons beaucoup de, enfin, un éventail d'activités qui sont comme l'aide au récit avec la préparation pour les entretiens à l'OFPRA. Les simulations d'audience.
On peut rappeler ce qu'est l'OFPRA.
L'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés et apatrides, protection des réfugiés et apatrides.
Des simulations. C'est un organisme d'État qui
dépend du ministère
donne,
de l'Intérieur.
Voilà, ces autorisations.
Qui donne ou non.
Les fameuses reconduites à la frontière.
Alors, pas tout à fait. C'est la décision de l'OFPRA, donc, c'est soit une décision de statut de réfugié ou de protection subsidiaire, soit un refus. De ces protections internationales. Avec ce refus, les demandeurs d'asile peuvent faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, on les aide à former un recours qui conteste les arguments utilisés par l'OFRA pour refuser justement cette protection internationale. Et on essaye de faire en sorte que les personnes puissent argumenter pourquoi elles ont fui leur pays. Avec les motifs qui sont ancrés dans la Convention de Genève. On fait des simulations aussi de ces audiences, donc qui demandent au moins 4 bénévoles, hein, puisque les formations de jugement, c'est un président de séance avec 2 assesseurs, un qui est nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés et un autre par le Conseil d'État, plus une autre personne qu'on appelle le rapporteur, qui est la personne qui va introduire le dossier devant la formation et qui va introduire à charge et à décharge. Voilà. Y a des bénévoles qui s'occupent aussi des cours de français. D'autres qui... On a aussi une activité qui permet aux réfugiés, donc aux personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, de pouvoir démarrer leur démarche pour le RSA, pour le logement, pour la réunification familiale, ce qui est un gros chantier, parce que c'est pas facile pour des demandeurs d'asile de faire venir leur famille quand, par exemple, ils habitent le Soudan l'Afghanistan où il n'y a pas d'ambassade française à Kaboul, il faut que les gens aillent au Pakistan, enfin, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'aide quotidienne, par exemple l'accession à la tarification solidaire pour la Thaï. Il y a la domiciliation, la distribution du courrier. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On est à peu près 70 bénévoles. Cette année, en 2019...
2020
Pardon
2020, cette année. Vous avez dit 2019.
Non, je parle du bilan de 2019.
D'accord.
Où on a totalisé environ 26 000 heures de bénévolat, donc ce qui représente à peu près une quinzaine d'équivalents temps plein. Il y a 2 salariés. Donc c'est beaucoup de bénévoles, très impliqués. Voilà.
Je ne vous ai pas posé la question, au niveau du SAMU social, le nombre de bénévoles actuellement ?
140.
Donc sur l'agglomération grenobloise ?
Oui, ouais, puis quelques-uns qui viennent d'un peu plus loin, mais bon, principalement agglomération grenobloise.
D'accord. Alors pour revenir sur cette question de la mobilisation des bénévoles, on a commencé à en parler avec Marie-Noël Pinel, donc qui nous a confirmé qu'il n'y a pas de crise du bénévolat. Est-ce que c'est aussi un constat que vous partagez? Les bénévoles, il y en a toujours autant, il y en a moins, il y en a plus au niveau de vos structures?
Au SAMU social, c'est vrai qu'on n'a absolument pas de problème de recrutement. J'en parlais tout à l'heure avec Madame Pinel. Là, on a 40 personnes en attente. Et il faut qu'on fasse un tri dans la liste de bénévoles quand même, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas tourné depuis longtemps. J'en parlais cet après-midi avec la secrétaire. Et c'est vrai que les demandes de bénévolat tombent régulièrement via notre site. Et du coup, on n'a vraiment aucun problème de recrutement, quoi. Mais on est sur aussi, c'est ça qui est spécifique dans les maraudes, c'est qu'on est sur des horaires de nuit, enfin de soirée en tout cas. Du coup, on a beaucoup de bénévoles qui sont actifs dans la vie, qui ont entre 20 et 50 ans. En fait. Donc c'est quand même des gens qui ont à côté de ça une vie, des enfants, une famille, et qui se libèrent du temps le soir, en fait, en dehors du travail. Mmh.
Jean-Michel Renaud ?
Alors, je ne peux pas dire non plus qu'il y ait une crise des bénévoles. En fait, la population sont à la fois des retraités, des jeunes, des étudiants. On a un partenariat, par exemple, avec l'IEP Grenoble. Donc on a pas mal de stagiaires aussi tout au long de l'année. Donc on recrute pas mal parmi le monde étudiant. Et aussi, enfin c'est deux pôles, les étudiants et puis les retraités. Très peu de personnes qui sont encore dans la vie active. Il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Je dirais que le problème, c'est pas tellement le recrutement. C'est plutôt... Donc nous, nos locaux sont à la Maison des Associations. Donc on est accueillis par la Maison des Associations. Et ça se passe très bien, simplement, on manque de locaux. On manque de locaux. Malgré tous les efforts des uns des autres, c'est quelque chose qui est limitant. Et puis je dirais que c'est pas tellement le manque de bénévoles, c'est l'augmentation des difficultés auxquelles on a à faire face dans la demande d'asile, dans l'application de la demande d'asile, dans la vie quotidienne des gens, des demandeurs d'asile, qui sont de plus en plus soumis à des difficultés, des tracasseries administratives, des empêchements, des obstacles. Voilà. C'est plus ça qui nous limite.
D'accord. 700 accordeurs, c'est pas mal.
Ouais, ouais.
C'est un beau chiffre, non ?
C'est pas mal.
Par rapport aux autres accorderies, puisque vous avez dit que c'est un réseau, comment ça se positionne, l'accorderie Grenoble ?
Oui, je pense que c'est un bon nombre et en même temps, c'est pas le nombre qui compte vraiment, c'est plutôt la qualité de l'engagement des personnes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que 700 personnes qui sont inscrites, mais ça veut pas dire 700 personnes qui utilisent le réseau ou qui participent à des événements. Donc nous, là, on a un peu plus de mal, c'est en effet de passer ce cap de la première volonté de découvrir ce système-là et ensuite peut-être qu'il y a quelques peurs aussi de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, d'avoir ces échanges-là, manque de temps je pense beaucoup, de pas pouvoir réaliser complètement, enfin ça demande aussi un petit investissement d'aller sur le site, de faire la démarche d'appeler quelqu'un, de venir à un apéro ou à un événement convivial. Et du coup, oui, derrière, tout le monde n'est pas, je pense, je dirais plutôt 200 personnes très actives ou très actives. et ensuite 700 personnes en tout qui potentiellement un jour passeront la porte du local en disant « Ah, j'ai une super idée, ah, j'ai un besoin », mais on ne voit pas tout le monde régulièrement, c'est sûr.
Alors, Marie-Noëlle Pinel, donc, on a confirmation que vous aviez raison au niveau des associations qui sont en tout cas
vous
autour
de la table. Vous m'auriez ennuyé en me disant le contraire.
on aurait débattu. Est-ce que ça veut dire que c'est plus au niveau du renouvellement des instances dirigeantes des associations qu'il peut y avoir des problèmes ? Ou là aussi, les associations arrivent finalement à trouver du nouveau sang pour remplacer les anciens ou ceux qui sont un peu fatigués
Ça, c'est
diriger.
Un vrai problème. Parce que il fut une époque où c'était un honneur d'être président et actuellement ce n'est plus du tout dans l'air du temps.
Ça amène que des ennuis.
Oh, ça n'amène pas que
des
ennuis, mais c'est une équipe qu'il faut animer, il faut trouver des idées nouvelles, il faut écouter surtout aussi tout ce que dit l'équipe et ça c'est pas toujours très simple et on n'a pas toujours envie de s'en charger. Donc, une des tendances actuellement, c'est de faire des directions collégiales. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes à la tête d'une association avec des responsabilités un petit peu différentes. Et donc, c'est un gros travail d'arriver à se mettre en collégialité, mais ça sauve quand même un certain nombre d'associations. Par contre, il est complètement utopique de dire France Bénévolat, il nous faudrait un président pour telle association. C'est vraiment farfelu, c'est pas possible ça. Le président ou la présidente doit plus ou moins être issu de l'association pour connaître l'association, pour savoir comment s'y prendre. Je pense que nous sommes dans une période de transition et être président, c'est vraiment avoir le souci d'une équipe. C'est pas avoir des honneurs et non, c'est pas ça.
Est-ce que la période qu'on vit actuellement, et depuis le mois de mars, le confinement, le déconfinement, mais avec des conditions particulières qui risquent de se renforcer, on ne sait pas encore, il y a beaucoup de points d'interrogation pour l'avenir, est-ce que ça complique un petit peu vos fonctionnements, vos recrutements de bénévoles, ou pas plus qu'à l'ordinaire, Jean-Michel Reynaud ?
Pour le recrutement des bénévoles, alors... Certains ont choisi de faire de travailler à distance, hein, donc il y a des tâches qui sont possibles à distance, mais pour une grande majorité, les bénévoles sont revenus après le déconfinement. Voilà, sans trop d'appréhension, je dirais. On a bien sûr aménagé au niveau des accueils, notamment pour les permanences où on reçoit énormément de monde. La Maison des associations aussi nous a aidés à réorganiser. On a pu utiliser, on va pouvoir utiliser une grande salle, la grande salle de conférence qui permet d'accueillir beaucoup de monde. Voilà. Mais d'une manière générale, bon, ça complique les choses, mais...
Mais ça n'a pas, voilà,
pas modifié,
empêché,
non,
ça
n'empêche pas
les candidatures d'arriver.
Non.
Eric, vous avez cité le virus qui compliquait vos interventions, vos maraudes. Au niveau des bénévoles, ça a aussi un petit peu ralenti les propositions ou pas ?
Alors nous, pareil, on a été obligés, au moment du confinement, on a été obligés de bloquer toute entrée de bénévoles, de nouveaux bénévoles. Mmh. On a complètement arrêté de recruter. On a mis en place des protocoles. On a revu complètement notre façon d'approcher les gens. Parce que, par exemple, quand vous arrivez en voiture pour voir quelqu'un, il ne faut absolument pas que cette personne vienne vous parler à la fenêtre, tout simplement parce qu'elle va vous postuler dessus. Et voilà, donc on a été obligé de revoir tout ça, mettre en place un protocole masque, un protocole gel, gants, etc. Revoir également ce qu'on préparait, parce qu'on a une aide d'urgence aussi au niveau alimentaire. Et avant, on partait avec de la nourriture dans la voiture, café, thé, chocolat, soupe, surtout l'hiver. Et en fait, là maintenant, on prépare des sacs au local. On a vraiment complètement revu notre fonctionnement de A à Z. Et c'est seulement après le déconfinement qu'on a un petit peu quand même, une fois qu'on a recommencé à fonctionner plus normalement, qu'on a commencé à recruter à nouveau des bénévoles. Et ce qui a compliqué aussi la chose, c'est qu'il y avait, ça a été très intense pour les associations à Grenoble qui sont dans la précarité. Hein. Je pense que là-dedans aussi, vous avez bien dû le sentir. Il y avait un énorme problème alimentaire, en fait. Donc, on a pour soulager l'association Magdalena, on les a soulagés de 3 soirs, en fait. Donc, nous, on avait pris le mercredi, le samedi et le dimanche, déjà pour que le président de Magdalena puisse se reposer un peu et puis avoir des semblants de week-end. Parce que moi, je ne connais pas une association qui aurait pu durer dans la longueur à 14 distributions par semaine. Quoi. Et rien que pour nous, 3 distributions dans la semaine, on est monté à plus de 200 personnes. On faisait ça devant le musée. Et derrière, au niveau logistique, je veux dire, il faut être armé. Il faut vraiment avoir un local pour entreposer, il faut avoir les contacts pour avoir les marchandises. Et puis, il faut avoir des personnes pour pouvoir charrier tout ça. Quoi. Donc, ça a été quand même un grand élan d'aide entre les associations. Nous, on s'est fait prêter les locaux du Vieux Temple. Il y a Ozanam qui nous a prêté un camion pendant toute la durée de la distribution. Vieux Temple aussi nous a aidés pour acheter des fournitures. On a reçu pas mal de dons. Ça aussi, ça a été bien. Et on a quand même réussi au final à mettre en place un système qui a quand même pallié le manque. Parce qu'à un moment, dans la rue, quand je disais tout à l'heure que l'association s'est arrêtée 15 jours, en fait, elle ne s'est pas arrêtée 15 jours. Moi, j'ai continué les maraudes pour justement rester au contact des usagers. Et on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait plus moyen de téléphoner, il n'y avait plus moyen de faire la manche. Donc à ce moment-là, se nourrir, ça devient vraiment un problème. Et étant donné que toutes les associations avaient fermé en cascade par précaution, et c'est bien normal, à un moment, il faut réagir, il y a un souci, quoi. Et là, je pense que quand même, il y a une réponse globale des associations qui a été vraiment satisfaisante, je trouve.
Je vais à la fois compléter et à la fois dire que nous, par exemple, on a un très gros fichier et on est en capacité d'alerter des bénévoles qui sont proposés à un moment ou à un autre pour leur dire, écoutez, il y a telle mission actuellement qui a besoin de bénévoles, est-ce que vous êtes intéressés ? On l'a fait pour Magdalena, parce que Magdalena, au début, nous l'a demandé. Il y a 300 personnes qui sont proposées, qui ont répondu. Alors, il faut savoir que chez nous, les gens répondent par mail. On ne donne jamais les coordonnées de la personne à l'association. C'est les bénévoles eux-mêmes qui répondent oui, non ou qui ne répondent pas hein, et qui décident d'adhérer à la proposition qui leur est faite. Et moi, ce que je trouve très dommage, c'est que pendant tout ce confinement, on avait les moyens d'orienter énormément de personnes qui étaient prêtes à partager, à faire quelque chose, et on n'arrivait pas à toucher automatiquement les associations. Moi, je ne savais pas, par exemple, que le SAMU social assurait des distributions.
D'accord.
Je suis passée au Secours populaire pour une raison ou autre, et donc on a pu travailler ensemble. Le Secours 4 ne nous a pas sollicité, etc. C'est un petit peu dommage, on a manqué de coordination. Et ça, moi, je le déplore complètement. Et en tant que France Bénévolat, on est totalement impliqués et prêts à participer à une organisation et à être un acteur si besoin est. Voilà. C'est important parce que la coordination, c'était vraiment... ça manquait quand même. On aurait pu faire mieux. On a fait pas mal déjà.
On apprend de ses erreurs. Donc,
exactement.
Voilà là.
Il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est cet élan de solidarité, de générosité.
Oui, c'est quelque chose
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Qui a marqué tout le pays.
Et il ne faut pas le laisser tomber. C'est dommage de le laisser tomber. Alors, je veux simplement souligner par rapport à Manon que les accorderies, c'est super pour le lien social, pour les échanges comme ça. On ne peut pas, et vous l'avez bien souligné, ce n'est pas du bénévolat. Voilà.
Et du coup, ça me permet de poser peut-être la dernière question à Manon aussi, l'impact de la période confinement-déconfinement sur l'accorderie, ça s'est ressenti ou pas ?
Nous, au début du confinement, on avait un peu peur du coup de perdre le lien entre les gens, qui des fois peut être assez fragile, donc de personnes qui se sont rencontrées au sein de l'association. Et finalement, on a été assez presque surpris, l'équipe, de constater que non, il y avait quand même un réseau assez important de personnes qui avaient leur numéro de téléphone, qui sont appelées, qui sont soutenues pour prendre des nouvelles. Et puis nous, à côté, on a pris l'initiative d'appeler chaque adhérent pour également pour prendre des nouvelles, pour savoir si les gens avaient besoin d'aide ou si eux étaient disposés à en donner. Aussi, au passage, pour mettre un peu à jour notre catalogue d'offres et de demandes, ça faisait pas de mal. Et du coup, c'était, on a vraiment eu l'impression de garder ce lien et également on a envoyé des newsletters assez régulières par mail, enfin pour continuer à informer les gens, bah, notamment des distributions à Magdalena et aussi des initiatives qui avaient lieu dans Grenoble pour souvent bah, pour les personnes les plus démunies ou isolées. Et puis c'était aussi l'occasion de mettre en lien plusieurs personnes isolées entre elles pour qu'elles s'appellent et qu'entre elles puissent se soutenir s'il y avait un besoin.
Voilà. On termine donc ce plateau sur un message plutôt positif dans l'ensemble qui confirme cet élan de générosité, de solidarité qui est né depuis l'arrivée du virus, Eric.
Et si je peux préciser qu'il y a un site qui a été mis en place par le CCAS de Grenoble, ouais, qui s'appelle Solidarité Grenoble, et où vraiment on trouve toutes les infos sur les lieux de distribution alimentaire, où trouver de l'aide, où trouver à boire, etc. Et c'est vraiment un site qui est très complet, qui est très régulièrement mis à jour. Donc je conseille de l'utiliser si on est dans le besoin.
Bah pour terminer, peut-être un nouveau tour de table, juste pour nous donner les contacts, si on veut vous contacter les uns les autres, que ce soit pour s'informer ou pour apporter, proposer son aide.
Alors pour l'ADA, c'est très simple. Il y a un site sur Internet, il suffit de taper ADA, ADA Grenoble. Et là, vous aurez toutes les informations, vous aurez l'adresse mail auquel vous pouvez nous contacter pour demander à devenir bénévole dans notre association.
Donc pour les auditeurs qui seraient arrivés en cours de route, je reprécise, ADA, c'est l'association pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Exactement, et vous avez aussi toutes les publications qui se trouvent sur notre site. Voilà, et vous pourrez prendre connaissance de toutes les activités au travers de nos publications.
Le SAMU social, Eric, recours.
Alors, on a un site internet, donc c'est le 26 SAMU social. Il y a un onglet contact, et sinon, il y a l'adresse mail association26@gmail.com. Et c'est la secrétaire, ça tout tombe sur le bureau de la secrétaire et elle répond directement.
Parfait. La corderie.
Alors, nous, on a un site internet. Si vous tapez la corderie de Grenoble, vous devriez nous trouver, ainsi que deux permanences par semaine. Et juste pour dire qu'on a plusieurs projets sympas qui se montent, qui sont un projet de jardin partagé juste derrière notre local, qui est d'ailleurs en ce moment à la mairie pour participer au budget participatif, ainsi qu'un partenariat avec les résidences autonomie de l'agglomération pour créer des liens avec les personnes âgées. Et également, comme Madame Pinel le soulignait, on est en train de passer en gouvernance partagée. Donc l'idée, c'est de supprimer la gouvernance verticale avec un CA qui prend les décisions pour tout le monde, mais d'impliquer le maximum de personnes dans les décisions. Donc ça demande aussi plein d'énergie, plein d'idées. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer et voir ce que vous pouvez faire avec nous.
Et France Bénévolat.
France Bénévolat, eh bien, en principe, vous tapez Bénévolat Grenoble et vous avez immédiatement le site de France Bénévolat Grenoble Isère. Vous pouvez aussi avoir Isère Bénévolat parce que nous avons un partenariat avec le département. La grosse différence entre les deux, c'est que c'est la plateforme du département est une plateforme muette, c'est-à-dire qu'il y a des annonces. Et vous répondez aux annonces directement à l'association. Mais vous n'avez aucun interlocuteur et vous ne pouvez pas savoir, en effet, si ça correspond bien exactement à ce que vous recherchez. France Bénévolat, je dirais presque que c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que vous venez nous voir, on vous explique. Si vous êtes plus loin que Grenoble, on prend le temps de téléphoner, on prend notre temps. On a ce luxe. On existe également sur Vienne. Et nous aurons, je pense, prochainement un bureau sur Bourgoin. Voilà. Donc, bénévolat Grenoble, vous serez sur notre site et nous sommes logés également par la Maison des Associations. Nous avons 3 jours de permanence, le lundi, mardi et jeudi.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous, d'avoir passé ces quelques minutes à échanger et à présenter vos structures. Bonne continuation, bon courage pour la suite dans vos missions et une prochaine fois, au plaisir de vous retrouver sur les ondes.
Merci à
On
vous.
Se quitte Merci. Donc pour ce plateau et puis je vous donne rendez-vous d'ici un petit quart d'heure pour le dernier plateau de la journée. On va changer, on change de sujet, mais après tout on peut retrouver quelques points communs puisque c'est de transition énergétique et sociale dont on parlera. Donc restez avec nous et tout de suite un peu de musique sur News FM.